La bonne nouvelle chantée par les anges au-dessus des collines de Bethléem, dans la nuit où naquit le Sauveur du monde, n'était que le commencement de la manifestation de cet évangile de gloire, de paix et de salut. Cette bonne nouvelle, car c'est là la signification du mot évangile, fut plus amplement révélée dans le ministère public du Christ, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades et les affligés, apportant le réconfort et l'espoir aux opprimés et prêchant la venue prochaine de son royaume. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais il faut dire que tout le bien qu'il fit et qu'il dit n'aurait eu qu'un effet limité s'il avait laissé les hommes dans leur péché. Le message de Jésus de Nazareth n'aurait aucune importance pour notre époque, aucune portée, s'il ne proclamait pas la grâce et le pardon de Dieu. C'est essentiellement dans cette caractéristique du message de Jésus que réside la bonne nouvelle. Il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas de bonne nouvelle là où le pardon des péchés n'est pas proclamé. Car le message du Christ ne vise pas essentiellement l'amélioration de la condition matérielle des hommes. Ce n'est pas l'homme extérieur qui importe, c'est l'homme intérieur. L'extérieur n'est qu'une apparence, souvent trompeuse. Le besoin est à l'intérieur. C'est là où s'enracine le mal. L'évangile du Christ n'est donc pas un évangile strictement social, comme certains aiment le croire. Il dépasse infiniment les limites étroites de notre vie terrestre. La raison d'être, c'est le péché. Sa mission, c'est la conversion, ou la réconciliation de l'homme avec Dieu. C'est la rémission des péchés. Celui qui n'a pas compris cela n'a pas compris l'évangile. De toute évidence, il n'a pas lu la Bible, ou ce qui est pire, il l'a mal lu. La révélation de la bonne nouvelle atteint son point culminant dans la mort du Christ et dans sa résurrection triomphale. Les prophéties, particulièrement celles d'Ésaïe, annoncent clairement un Messie souffrant et prenant sur lui l'iniquité de nous tous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Aussi Paul s'indigne-t-il contre ceux qui n'entrevoient l'utilité du Christ que dans cette vie et pour cette vie. Il s'exclame avec véhémence, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Bien sûr, nous n'ignorons pas le fait que le christianisme a exercé une énorme influence dans le monde des hommes, apportant une amélioration considérable dans la société humaine. Hôpitaux, asiles, institutions diverses se sont ouverts, continuant l'œuvre du Christ qui était l'ami des pauvres, des malades et des misérables. C'est le christianisme qui a restauré les principes éternels de justice et d'égalité de droit de tous les hommes. Il faut noter d'ailleurs que les conditions de vie sont toujours meilleures dans les pays du monde où l'évangile s'est répandu le plus librement. Mais ce sont là, dirons-nous, des sous-produits de la puissance évangélique. Les Écritures expliquent clairement que le but essentiel de l'évangile n'est pas l'amélioration du sort de l'homme sur la terre, bien qu'il porte indirectement et logiquement ce fruit. La raison d'être de l'Évangile, nous le répétons avec l'Écriture, c'est de sauver les hommes du péché et de les préparer à accueillir la mort comme une porte qui s'ouvrira sur une éternelle communion avec Dieu. Le défaut grave d'un certain Évangile social, c'est qu'il veut ignorer cette caractéristique essentielle du message chrétien, lui préférant son aspect matériellement et temporellement avantageux. Il a, il est vrai, l'avantage d'être plus attrayant. Il convient mieux à la mentalité moderne, mais c'est un faux évangile. L'évangile social ne se préoccupe virtuellement que du temps présent. L'évangile du Christ nous ouvre des horizons sans doute moins immédiats, mais plus vrais. C'est précisément ce que rappelle l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, dit-il, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les apôtres de l'évangile social considèrent le péché comme n'étant qu'un symptôme du désordre social. Mais les apôtres de Jésus-Christ dénonçaient le péché comme la cause même de ce désordre et de toutes les misères auxquelles est assujettie la race humaine. Dans l'évangile social, le Christ n'est qu'un martyr. Pour les chrétiens, cette mort est la condition même de leur vie. « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris », avait déjà annoncé le prophète. « Il est notre rançon, le prix de notre liberté et dans notre salut. Ainsi, nous voyons qu'il est possible de s'écarter considérablement de l'Évangile tout en gardant une apparence évangélique. Mais que reste-t-il de cet Évangile lorsqu'on en a éliminé le caractère divin, pour ne pas dire miraculeux, jusqu'à la résurrection du Christ? Car c'est bien là ce que fait ce prétendu Évangile social. Dans un effort d'adapter l'Évangile à la mentalité moderne, les hommes ont abouti à une caricature lamentable. Ou bien on accepte le message du Christ tel qu'il nous l'a livré, ou bien on le rejette. Il ne peut y avoir de compromis. Les doctrines humaines, à base d'Évangile, ne sont que des doctrines humaines et ne seront jamais que cela. Jésus lui-même souligne fermement quelle doit être notre attitude vis-à-vis de son message. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je les dis comme le Père me les a dites. Les paroles de Jésus n'ont pas toujours été douces à entendre. Il y a dans l'Évangile des accents de colère et d'indignation, des mises en garde sévères et définitives qui commandent le respect et la crainte. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je vous donne aussi comme référence 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 et 2, l'Épître aux Galates, au chapitre 1, versets 8 à 9, l'Épître de Jacques, chapitre 1, versets 21 à 25, et la deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, versets 15 à 18. Jésus a constamment souligné dans ses enseignements les besoins spirituels de l'homme, en accordant à ceux-ci une plus grande importance qu'à leurs besoins matériels, c'est-à-dire au manger, au boire et aux vêtements. L'épisode de la multiplication des pains lui fournit une autre occasion d'insister sur ce thème vital, si vite oublié par les hommes. « Travaillez, exhorte-t-il, non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. » Voilà, chers auditeurs, le véritable esprit de l'Évangile, révélant les véritables besoins de l'homme. Cette révélation est aussi précieuse, aussi providentielle, que le diagnostic d'un médecin qui nous découvre une maladie grave que nous ne soupçonnions même pas. En même temps, il en propose le remède, qui peut être encore appliqué à temps. Serons-nous assez fous pour négliger et le diagnostic et le remède? L'Évangile du Christ, dit l'apôtre Paul, est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, car en lui est révélée la justice de Dieu, c'est-à-dire le plan de Dieu pour rendre les hommes justes par la foi en Jésus-Christ, le pardon des péchés par le sang du Christ, la justification par la foi en Christ, la sanctification par l'Esprit du Christ, la glorification avec le Christ dans le siècle à venir, ce sont là les grands thèmes de l'Évangile. L'apôtre Pierre les résume dans les premières lignes de sa première lettre. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Pour l'apôtre Pierre, l'Évangile est tellement vrai, l'espérance qu'il donne est tellement grande, qu'on peut lui donner notre adhésion totale et joyeuse, corps, âme et esprit, en dépit des épreuves et des souffrances qu'une telle adhésion peut amener. « C'est là ce qui fait votre joie, écrit-il. Quoique maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Chers amis, ne confondons pas l'Évangile du Christ avec cet Évangile social et intellectuel que les hommes ont fabriqué. Ne perdons pas de vue la croix, les clous, la couronne et le sang du bon berger qui a donné sa vie pour les pécheurs que nous sommes. Gardons-nous, comme trop de gens inconstants et désorientés, de nous mettre à la remorque de tel ou de tel système, sous prétexte qu'il a des résonances chrétiennes. Pourquoi nous contenter des échos? Allons directement à la parole elle-même, qui est et qui sera toujours la lumière de chaque homme, le véritable espoir du monde.